Bienvenue à One Contre One, la balado qui existe encore.
Contrairement aux reports of this podcast, death has been vastly overrated.
Oui, exactement.
Je pense que c'est ça.
Ouais.
Mais on n'avait pas l'intention d'arrêter après 20. Là. C'est pour ça que notre numérotation, il y a trois chiffres. Là. Fait qu'on peut se rendre jusqu'à 999 épisodes.
Puis après ça, on va prendre notre retraite.
Après ça, on
peut. Tout l'argent qu'on fait avec notre podcast, je pense qu'on peut se permettre une retraite après 999 épisodes. Mais
sur quel genre de matelas tu dors, toi, Mathieu?
Je magasine. Je magasine en ce moment. Donc, clin d'œil à tout le monde.
Le code One contre One pour 15% de rabais.
Exactement. Écoute, on s'excuse, chers auditeurs. On a eu. Ben, si vous suivez notre feed, vous êtes au courant qu'on joue de la musique et que nous avons sorti un album l'hiver passé.
Le Grand Tour, disponible chez les bons disquaires et les plateformes de diffusion en ligne et sur Bandcamp.
Oui, faites beaucoup de streams parce que ça ne donne pas beaucoup d'argent, les streams. Donc, jouez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mettons que vous partez du bureau là, puis que vous laissez votre ordinateur ouvert, vous pouvez le partir en boucle. Il n'y a personne qui va l'entendre. Puis après ça, le matin, vous l'arrêtez, il n'y a pas de problème.
Puis après ça, ben, vous écoutez The Smiths parce que, bon, ça nous met de bonne humeur.
Ça te met de bonne humeur, The Smiths?
On s'en reparlera.
On s'en reparle dans quelques minutes.
Puis aussi, bon, juste pour dire, moi, j'ai eu un congé de paternité.
Félicitations.
Merci, ça fait quand même déjà un petit bout. Le petit bonhomme marche quasiment, donc ça, les choses ont avancé beaucoup. On a été COVIDé comme le reste de la planète. Donc, on n'était pas très disponible pour podcaster.
Mais... là, on l'est.
Oh oui.
Et là, on est de retour.
Oui, puis on s'en est donné une petite facile pour s'en remettre dans le bain, je pense.
Oui, oui, oui.
Est-ce que était facile pour toi, celle-là?
Oui, elle était facile pour moi et elle a été plus intéressante que je pensais. On parle aujourd'hui de Cemetery Gates, deux chansons, une du groupe britannique The Smiths et l'autre du groupe très américain, Pantera. Il n'y a pas plus britannique que The Smiths et il n'y a pas plus américain que Pantera, je pense.
C'est un des points en commun de ces deux groupes-là. J'en ai plusieurs points en commun.
Cette espèce de patriotisme un peu chauvin, un peu inquiétant parfois pour certains propos des chanteurs.
Ben, Colin, lançons-nous tout de suite. Écoute, comment dire? Commençons par The Smiths.
Commençons par The Smiths.
La chanson sortie dans les années 80. 85, je pense, celle-là. Le groupe s'est formé en 82.
Et s'est séparé en 87, je pense. Ça n'a pas été une longue... C'est quatre albums?
Quatre albums, beaucoup de singles.
En même pas 10 ans.
À peu près, ouais. Très prolifique, par contre.
Oui.
Très prolifique. Et ce soir, nous parlons de Cemetery Gates sur l'album The Queen Is Dead.
Dur à battre comme album. Quel album?
Quel album, d'ailleurs, dans Pitchfork, dans un reissue là, d'un box set en 2017, a donné un 10 sur 10.
Oui. Mais ça, c'est le genre de révisionnisme que parfois on voit dans les critiques qu'à l'époque, l'album avait scoré 2 ou 3, puis qu'après coup, on se flatte la bedaine en disant... Oui, oui, on a toujours trouvé ça génial.
Ah oui, puis Pitchfork sont très forts là-dedans. On mettra en lien dans les show notes quelques vidéos, entre autres Fantano qui commente un article de 2021 où Pitchfork revoit certaines notes et explique pourquoi, dont je fais un détour avec Interpol, l'album Turn on the Bright Lights, qui était presque un 10 sur 10 à l'époque, ben, tabarnak, ils ont descendu la note.
Ils ont descendu la note de Turn on the Bright Lights?
J'ai pas lu pourquoi, j'étais tellement en géritol.
Mais t'as pas besoin de te censurer après avoir déjà dit tabarnak. Là.
On s'excuse. On veut être un podcast familial, mais écoute...
Il y a des choses qui doivent se dire.
Il y a des choses qui doivent se dire. Et si vos enfants ne connaissent pas le premier album d'Interpol, qu'est-ce que vous attendez? Le mien l'a déjà écouté. Écoute, oui, c'est ça, révisionniste, mais par contre... Je pense que la critique était quand même dithyrambique à l'époque.
De Smith? Oui. Oui. Oui, oui puis il y a un peu cette révérence-là, j'ai l'impression, dans la presse britannique.
sur l'œuvre des Smiths, sur l'œuvre de Johnny Marr et de Morrissey, qui est un peu de dire, ouais, peu importe ce qu'on peut penser de la personne, peu importe ce qu'on peut penser de ce qu'ils font maintenant, on s'entend que c'est des génies, on prend ça pour acquis. Après ça, ça ne nous empêche pas de dire les pires niaiseries sur ces personnes-là. Des fois, des niaiseries qui peuvent être fondées, d'autres niaiseries qui peuvent être inventées. Mais il y a une révérence pour leur œuvre des années 80, je pense, qui est déjà établie.
Oui, puis ils ont fait partie d'un écosystème incroyable là, à l'époque dans Manchester. La scène Madchester, qui est aujourd'hui encore célébrée là, dans la presse britannique. J'écoutais des entrevues hier là, pour me préparer. Là, pis, écoute, Johnny Marr
oui.
a rencontré par hasard Noel Gallagher d'Oasis à la sortie de la Hacienda à la fin des, au début des années 90. Et à ce moment-là, Noel Gallagher a donné à Johnny Marr le premier démo d'Oasis, des chansons qui allaient devenir Definitely Maybe.
C'est n'importe
là,
quoi.
Là, vous allez me dire, voyons, Matt, tu fais juste des phrases par rapport avec ce qui se passait à Manchester. Mais non, non, non.
Mais non.
C'est vraiment de la bouche même de Noel Gallagher. Dans des, allez voir ça sur les YouTube. Oui, c'est en effet, c'est la phrase la plus Manchester, je pense, qu'on peut imaginer.
Oui.
Puis ils se sont liés
d'amitié. Ils se sont pas battus.
Ils se sont pas battus. Okay,
ça, ça aurait été... Ça aurait été plus...
Parce qu'il aurait fait beaucoup de sens quand oui. même, considérant le... leur saint irlandais, mais plus tard, le bon Noël n'avait pas d'argent à l'époque, ben, puis Johnny Marr en avait, puis il y avait aussi beaucoup de guitares.
Il y avait beaucoup de guitares.
Il y avait vraiment
oui,
beaucoup de guitares.
Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, les guitares de Johnny Marr qui se retrouvent un peu partout.
Il a donné à deux reprises une Les Paul à Noel Gallagher.
Ouais.
La première, avec laquelle il a enregistré presque toute Definitely Maybe. qui a aussi utilisé ensuite pour la tournée dans les ce qui commençait à être des plus grosses salles pour Oasis avant ouais. la sortie de l'album. Et un soir, à Newcastle, qu'est-ce qui s'est passé? Un gaucho est monté sur le stage, Noel n'a fait ni une ni deux. Il a swingé la Les Paul sur le crâne du spectateur qui n'avait pas de place là. Et bien sûr, le headstock a brisé parce que c'est une Les Paul.
Oui.
Et... Johnny Marr avait un peu pitié, donc il a redonné une deuxième à notre ami Noel Gallagher, qui ensuite est devenu millionnaire.
D'un autre côté, c'est vraiment, c'est pas surprenant que justement la tête de la Les Paul est brisée. Pour les gens qui ne sont pas des guitaristes qui nous écoutent, ce qui me surprend, faut savoir que la Les Paul est un modèle de guitare réputé pour son poids, qui cause beaucoup de problèmes de dos aux guitaristes. Entre autres, la petite histoire veut que Eric Clapton jouait d'une Les Paul avant, puis il avait trop mal au dos alors qu'il s'est mis à jouer d'une Stratocaster beaucoup plus légère. Et je pense que c'est Neil Young qui jouait d'une Les Paul qui avait trop mal au dos alors qu'il s'est mis à jouer de la guitare acoustique. Ça nous donnait Harvest. Donc, la guitare est tellement lourde qu'il a pris une pause de guitare électrique et ça a donné l'album folk incroyable qu'est Harvest. Ça, c'est une légende peut-être urbaine ou peut-être avérée.
Je ne connaissais pas cet épisode-là de l'histoire du rock. Mais oui, Johnny Marr faisait partie d'un écosystème. Il était absolument partout. Je me rappelle aussi avoir écouté un podcast en entrevue avec lui, le podcast « Turned Out the Punk ». Johnny Marr avait commencé à fréquenter les shows punk à Manchester alors qu'il avait 14 ans.
Wow.
Il a manqué d'un an la légendaire prestation des Sex Pistols où les gars de Joy Division étaient et qui ont parti le groupe Joy Division parce qu'ils se sont rencontrés là.
Parce qu'ils se sont rencontrés là. C'est fou.
C'est une grande ville, mais une petite ville à la fois.
Une grande ville et une petite scène.
Oui.
C'est beau, de voir tous ces rapprochements-là qui se sont... Ça ferait un beau biopic. Le biopic de Smith va être malade.
J'ai vu, oui, mais je pense que ça va parler de la vie de Morrissey avant les Smiths. Ça se peut-tu?
Je sais pas.
J'ai entendu ça, mais ça s'en vient. Je n'ai pas lu sa biographie parce que je dois admettre que je ne suis pas un fan de la personne.
Ben c'est ça. La personne est un peu... l'arrogance de Morrissey est un peu rebutante.
Oui, ça... par contre, ça l'a quand même donné des textes légendaires, des textes ben, incroyables.
Oui, et mettons Cemetery Gates qu'on étudie aujourd'hui, c'est un texte délicieusement gothique, mais à la fois peint sans rire, tongue-in-cheek, comme diraient les Britanniques, un peu léger, mais un peu profond, doux, amer, et qui roule très bien en 2 minutes 40.
C'est incroyable, tout le tant les paroles que la musique, tout ce qui est compacté en 2 minutes 40, c'est absolument incroyable.
Ouais.
Cette chanson-là, c'est un... Je dirais pas un chef-d'œuvre, mais quand tu prends la guitare isolée de Johnny Marr, c'est quelques... Les suites d'accords, c'est du... C'est... Ça n'existait pas à cette époque-là.
C'est comme s'il y avait trois guitaristes qui jouaient, mais dans une seule personne, dans une seule ligne de guitare. Puis ça, sans compter justement l'interaction avec la basse, une basse qui prend le contrepoint de la guitare, c'est vraiment un chef-d'œuvre, disons-le.
Oui, au niveau musical, oui, en effet, c'est vraiment un chef-d'œuvre, comme presque tout l'album, je dirais. Je l'ai écouté cette semaine pour me préparer, puis... C'est pas une punition, là, se préparer pour un
non,
podcast d'un même en écoutant The Queen is Dead. C'est quelque chose. Puis, il y a même... J'ai vu une quote sur... Pour revenir à Noel Gallagher, j'ai vu une quote sur les internets. Mais je sais pas si c'est vrai. Par contre, je n'ai pas la source, mais Noel Gallagher aurait déjà dit « Johnny Marr à la guitare est même pas aussi bon que Johnny Marr. »
Quoi?
Even Johnny Marr is not as good as Johnny Marr. C'est tellement qu'il est, c'est un dieu de la guitare, en fait, encore aujourd'hui.
Oui.
C'est un guitariste excessivement influent.
Qui a influencé tout le monde,
Ouais. Tout comme Dimebag Darrell. Dans un style un peu différent.
J'ai jamais écouté de Pantera, je l'avoue. Et encore maintenant, j'en réécouterai pas. C'est une production qui, pour moi, ça rentre pas dans mes oreilles. Ça me laisse froid. C'est même rébarbatif. Ce genre de production-là, très, très daté, tournant des années 90, avec le chorus, le reverb sur le drum. Je peux pas.
Non, je te donne raison là-dessus. Je le réécoutais, puis l'album Cowboys from Hell, j'étais... plus ou moins familier avec cet album-là, parce que c'est l'album tournant de leur carrière. Parce qu'il y avait quatre autres albums avant qui se trouvaient avec du glam metal, du power metal. Les gars, tu sais, il y avait des spandex au début. Ça faisait dur. Là. Ben, c'est pas qu'ils sont devenus des cartes de mode par la suite, là, mais ça faisait dur. Là. Cet album-là a vraiment été un tournant. Il venait de signer ça. Il n'y avait pas de label, je pense, au moment d'écrire les tunes. Mais... il avait été influencé par un autre groupe obscur du sud des États-Unis qui faisait justement un groove metal.
Ouais.
Donc, ils ont décidé de donner une nouvelle twist à leur son. C'était le deuxième album où c'est que Phil Anselmo, je pense.
On entend aussi un peu de thrash dans les riffs.
Oui, un peu de thrash dans le vocal de Phil. T'as encore un petit peu là, de le côté le haut perché là, du glam là, qui rappelle un petit peu, veux pas... Motley Crue, Poison, ces choses-là.
Oui, puis avec l'intéressement avec la guitare solo de Dimebag Darrell avec des jeux d'harmonie, des solos enregistrés en double, en double tracking, qui rappellent un peu Queen, tu sais, avec vraiment là, quelque chose de très, très grandiloquent. Ça, on voit tout de suite là, le glam là-dedans. Moi, j'entendais Brian May dans ces solos.
Tabarouette, j'avais pas vu ça de même, moi. J'ai Ah ouais, très bon point, pareil. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu surproduit. Ce qui me déçut beaucoup, parce que je me suis rendu compte que c'était Terry Date qui avait produit l'album. Qui est un producteur que je respecte beaucoup parce qu'il a fait il a été derrière la console pour mes albums préférés des Deftones. Un de mes groupes préférés la musique lourde.
Je trouve que Deftones sonne beaucoup mieux.
Oui, en effet.
Mais c'est le groupe qui est meilleur, je pense.
C'est probablement le groupe qui avait une meilleure recherche des textures puis tout ça. Il y avait probablement d'autres influences beaucoup parce que c'est. Mais t'as raison, la production de Cowboys from Hell est tellement datée. C'est quasiment un cliché maintenant. Quand on écoute ça, ça a mal vieilli, je trouve.
Puis c'est ça un peu le problème des fois avec des albums classiques, c'est que ça sonne cliché parce que le cliché vient d'eux autres. Donc là, on est un peu dans un paradoxe de quelque chose est tellement cliché parce qu'à l'époque, ça a marqué les esprits, mais les esprits sont tellement marqués de ça que de le réécouter, on dirait que c'est une copie. Alors que c'était l'original.
Parce que moi, le peu de Pantera que je connais, c'est plus l'album, les deux, trois albums après. Ça redevenait pas encore plus rapide, plus méchant. Il n'y avait plus les vocales au perché. C'est le Pantera avec lequel je suis un petit peu plus familier, mais encore là, pas tant que ça non plus. Mais c'est quand même, ils se sont forgés quand même un bon following des années 90 pour de la musique métal et très assumée métal, alors que le grunge faisait la loi.
Oui. Puis pas juste un following de fans aussi, il y avait une forte communauté. Tu regardes, là, ces gens-là ont joué avec tout le monde, étaient amis avec beaucoup de gens. J'ai lu une anecdote sur ces deux frères, dont j'oublie le vrai nom, parce que c'est des pseudonymes qu'ils utilisent.
Hey, je l'oublie, c'est Vincent, le batteur Vincent quelque chose Abbott.
Et Dimebag.
C'est Daryl.
C'est Daryl Abbott, je pense.
Je pense que oui. Hey, écoute, tout le monde l'appelle Dimebag. Ouais. Apparemment, c'est parce qu'à l'époque, il vendait des sacs de potes à 10 pièces.
À 10 pièces.
Fait que tout le monde l'appelait Dimebag. Puis c'est resté. Apparemment que c'est ça.
Ben, ça fonctionne avec sa réputation de party parce que les frères ont organisé un party avec les Stars de Dallas
en 99.
Quand la Coupe Stanley. Ouais. Et pour la petite histoire, Guy Carbonneau a tiré la Coupe Stanley dans la piscine, a raté la piscine et a brisé la Coupe Stanley à ce party-là. Il se fait pas plus rock dans le sud des États-Unis que ça.
Non, en effet. Puis
il y a personne qui devait regarder le hockey dans ce party-là en plus.
Ben c'est ça, c'est ce que je comprends pas. Les frères Abbott sont un pur produit du Texas. Tu sais, le hockey, c'est pas quelque chose qui est si populaire que ça. Mais bon, c'est une grande ville avec beaucoup d'argent. Les gens vont probablement au hockey pareil. Donc,
ils n'ont pas joué beaucoup au hockey dans la rue. Là. Ils n'ont pas joué au hockey dans le rang où ils ont grandi.
Non, parce que probablement que le bon Dimebag était occupé à faire des gammes puis à prendre des chansons de Kiss.
Oui, c'est vrai.
Oui, il est enterré dans un cercueil Kiss, d'ailleurs.
Ah, oh, wow.
Ouais.
Je veux pas juger personne, mais quel mauvais goût quand même. Ah, je l'ai dit, hein?
Tu l'as dit, puis on va le laisser au montage.
Okay. D'accord.
Ben oui, non, c'était des party animals. Puis, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, Pantera a arrêté en 2000. Ils ont pris un break parce que Phil Anselmo avait d'autres projets musicaux. Il y avait Down, il y avait Superjoint, entre autres. Puis les frères Daryl ont reparti dans un groupe qui s'appelle Damage Plan.
Oui.
Et en 2004, il était en tournée, un mardi soir en Ohio. Et un fan dérangé est rentré dans le bar où le groupe jouait et est monté sur scène et a tiré, entre autres, en direction de Dimebag. Il l'a tué sur le coup, ce qui a shaké la communauté métal pour une année complète. Parce que, malgré leurs défauts, c'était des party animals et tout le monde les aimait, ces gars-là.
Oui, puis justement, ils nourrissaient l'écosystème du métal et de la musique méchante, disons-le.
Oui, exactement.
Aux États-Unis. Ce que je trouve un peu surprenant à l'écoute de Cemetery Gates, j'ai compté, puis les rythmes sont syncopés, les rythmes sont irréguliers. J'ai compté, puis c'est du 4-4 tout le long. Il n'y a pas de métrique spéciale. Ça donne l'impression d'être anguleux, d'être régulier, mais c'est du 4-4 tout le long.
Ah ouais?
Ouais.
J'ai pas vraiment compté, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dynamique. C'est la chanson la plus longue de l'album. Qu'une intro acoustique qui a d'ailleurs été écrite par le bassiste, le bon Rex.
Ah ouais? Un bassiste qui se targue de jouer la guitare.
Ça arrive. Puis apparemment que le bon Dimebag, lui, il trouvait ça bien bon comme intro, puis il a accepté que ce soit l'intro de l'album. Moi, par exemple, j'aime le riff. Le riff principal élevé, je le trouve bon.
Oui.
Les paroles aussi sont quand même bonnes, je trouve.
Oui, je m'attendais à plus. Je m'attendais à quelque chose de cliché. Et c'est pas cliché. Il y a vraiment une recherche dans ce texte-là. Des bonnes paroles. En cherchant sur Apple Music, je suis allé voir un peu là, dans les. Qui en a fait des reprises. Et je suis tombé sur la reprise de Between the Buried and Me.
Ah oui, un groupe plus des années 2000.
Oui, exactement. Qui, eux, je pense que c'est leur troisième ou quatrième album. C'est un album de reprise seulement. Et c'est, ça s'appelle The Anatomy Of. Donc, c'est l'anatomie du groupe. Ils reprennent leurs influences assez dans le style. Et là, j'ai redécouvert la chanson avec justement une production beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus. Ben, les riffs lourds sont beaucoup plus dans ta face. Mais les paroles sont chantées avec une voix, je trouve, plus. Plus vrai, plus vulnérable, plus cru. Et je trouve que c'est étonnamment, c'est ça qui m'a fait entrer dans la chanson, cette reprise-là de okay, Between the Buried and Me.
Je la connaissais pas, c'est intéressant.
Et sur cet album-là, il y a aussi, ils ont fait Blackened de Metallica, qui, puis là justement, ils ont fait exactement l'inverse. Ils sont allés dans une voix caricaturale.
Faut que j'écoute ça parce ouais. que c'est une de mes tunes préférées de tout le répertoire de Metallica.
Mais ouais, t'as pas nécessairement besoin.
Ah bon, ben coudonc. mais en revenant sur les paroles, c'est ouais. quand même, ça a été inspiré malheureusement selon ce que j'ai pu lire, du suicide de deux amis de Phil Anselmo.
Ah ouais.
Ça serait quelque chose qui serait arrivé à quelques semaines d'intervalle. Donc, ça lui a inspiré ces paroles-là. Donc.
On sent la tristesse, mais aussi la rage qui l'anime.
Oui, en effet.
Un peu l'insulte qu'il a ressentie dans cette.
Oui, c'est pour ça que je m'attendais, je ne me rappelais plus du tout je n'avais jamais prêté attention à des paroles de Pantera en général.
Ouais.
Puis j'ai vraiment été surpris là, à quel point le texte était beaucoup meilleur de ce que je m'y attendais. Parce que, en tout cas, dans les deux cas ce soir, parce que, ben, c'est ça. Les deux chansons ce soir parlent de mort d'une certaine manière, parce que, mais pas de la même manière.
Non.
Parce que du côté des Smiths, Morrissey, c'est comme, il aborde la mort des gens dans le cimetière ou est-ce qu'il gambade joyeusement avec une autre personne?
Mais il gambade joyeusement, mais A Dreaded Sunny Day. Alors, c'est vraiment comme, il fait beau, c'est plate.
A dreaded. Y a-tu des mots plus Morrissey que A Dreaded Sunny Day? Je suis sûr qu'il y a un groupe qui s'appelle de même quelque
part. A Dreaded Sunny Day, ouais, c'est vraiment.
On fera nos recherches sur Bandcamp tantôt. Mais bon, je suis convaincu qu'un groupe s'appelle comme ça.
Et là, il dit c'est tellement triste, j'ai envie de pleurer à cause de tous ces gens qui sont morts, qui ont fait plein de choses, mais qui maintenant sont morts. Et là, il tourne à droite complètement en disant.
plagiez pas, les enfants. C'est...
Je dois admettre ça, je ne l'ai pas compris. Je suis allé voir sur Song Meaning, ouais. Voir des nobody qui spéculent.
Ouais.
J'aime beaucoup ce site-là. Et non, je ne suis pas tombé sur quelque chose de définitif. Je sais que dans les paroles, il nomme deux poètes anglais.
Ouais, Keats and Yeats.
Wild, wild is on mine. Lui, il est du côté d'Oscar Wilde, ce qui fonctionne aussi avec son image d'ambiguïté sexuelle, hein, tout au long de sa carrière.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est, quand il a sorti sa biographie, les gens se sont garochés dessus pour savoir si le coming out y était.
Et la réponse est non. C'était pas dans sa biographie? Un coming out à moitié.
Oui, il était à l'humain.
À l'humain.
Oui, il était attiré par les humains.
OK.
Quelque chose du genre. Je ne l'ai pas lu, sa biographie. Mais je ne sais pas s'il fait aussi son parcours politique également. Mais ça,
c'est plus touché. Hein?
Oui, mais dans le cas de nos deux artistes ce soir, ça peut être assez touché. Mais pas du côté de Johnny Marr, par exemple.
Non?
Johnny Marr est un bon vieux travailliste du nord de l'Angleterre.
Okay.
Là, beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus à gauche.
Ben, d'un autre côté, mettons, Morrissey est généralement anti-élite.
Anti-élite, anti-immigration.
Ah, oui, anti, oui. Et strict végan.
Oui, oui.
Militant végan. Je pense que Pantera ne le sont pas.
Considérant que le frère de Dimebag est mort dans sa cinquantaine d'un arrêt cardiaque, j'aurais tendance à penser que ces groupes alimentaires principaux étaient le Bœuf et le Jägermeister.
Le guide alimentaire canadien ne recommande pas de suivre cette diète-là. Je m'en tiendrai à ce commentaire.
Oui. Si vous voulez le faire, c'est pas recommandé par nous.
Non. Il n'y a rien de ce qu'on dit dans cette balado-diffusion qui peut être considéré comme un avis médical.
Voilà, c'est dit. Ça va passer le test de nos avocats.
Parlant d'opinions controversées des artistes, je regardais le matériel avec lequel Dimebag Darrell jouait. Des belles guitares Dean, des beaux amplis Randall, full gain. Je me disais, oh wow, on est dans la subtilité. Tout ça est si beau. Beaucoup de drapeaux confédérés sur les guitares custom. C'est parfaitement dans le personnage.
Oui. C'est ça. Phil Anselmo aussi a eu quelques moments. On se rappellera, je pense que c'est en 2016 où il a fait un salut nazi après un concert, mais en disant White Power, mais
il disait que c'est une blague de vin blanc.
Ouais, il a dit que c'est une blague de vin blanc.
Ce qui est d'un goût douteux quand même.
C'est ça. Et du côté de Morrissey, il a fait une apparition à la télé où il y a quelques années, je pense 2019-2018, c'était pré-COVID en tout cas, où il y avait un écusson d'un parti politique d'extrême droite. C'est For Britain, que ça s'appelle, je pense. C'est considéré comme un parti anti-immigration, entre autres, en Grande-Bretagne. Et ça vient de quelqu'un qui passe la majorité de sa vie en Californie.
Oh là là là!
Et dont ses deux parents ont émigré d'Irlande.
Et dont une fréquentation est affectueusement surnommée Gelato à cause de ses origines italiennes. C'est chic. Tout ça est très chic.
Ouais, c'est des trucs qu'on a en commun ce soir avec nos artistes. Peut-être pas les chansons en tant que telles, mais nos artistes.
Qu'eux ont en commun, pas que nous on a en commun.
Non, nous on ne partage pas ces opinions-là, mais oui, les artistes ce soir. Mais pas Johnny Marr. Johnny Marr, je vais le défendre. Je vais le défendre. Il n'y a rien à son actif qui nous prête à penser qu'il partage les mêmes opinions que Morrissey.
Johnny Marr, j'ai été surpris de le voir apparaître en 2006-2007. Avec Modest Mouse, qui, après leur gros succès de l'album Good News for People Who Love Bad News, Johnny Marr s'était joint au groupe pour l'album d'après, We Were Dead Before the Ship Even Sank, qui, selon moi, est excellent, mais on, peut-être qu'on n'a pas les mêmes référents de musique alternative du milieu des années 2000. Et j'ai été surpris parce qu'il arrivait quand même avec quelque chose de complètement différent de ce que Modest Mouse fait, en arrivant avec une touche Johnny Marr qui est, encore une fois, un peu indescriptible, ineffable, mais qu'on reconnaît.
Bon, j'écoute ça. Parce qu'il a aussi collaboré avec The Cribs à peu près à la même époque.
Oui, juste un peu avant ou un peu après. Oui,
c'est ça. J'ai pas mon timeline devant moi, là, mais Internet existe, allez donc vérifier. Mais je pense que c'est... Mais je sais pas ce qu'il avait vraiment fait dans les années 90, par contre. Là.
Il a fait une couple d'albums solo, si je ne m'abuse.
Ok, ça se peut, ouais. Il collaborait encore avec d'autres artistes quand même. Ça a été beaucoup sa force. Et en ce moment, il est avec The Killers.
Ah, oh, ouais?
Ouais, il a fait... En 2019, il jouait à Glastonbury. Un set solo, bien sûr. Puis après ça, il a fait quelques chansons avec les Killers. Et il part en tournée avec eux. Je pense que c'est ça. Ça se fait en ce moment.
Aïe, aïe!
Ouais, ils font... C'est gros. D'ailleurs, allez regarder ça sur les YouTube. 2019, live en Angleterre. This Charming Man, The Killers, avec Johnny Marr à la guitare.
Wow!
C'est quelque chose. Brandon Flowers est un meilleur Morrissey que Morrissey.
Ah, oh, ouais!
Ah ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Et c'est aussi... Dans ce clip-là, on voit vraiment la complexité aussi des riffs de guitare de Johnny.
Ouais. Mais lui, il est toujours impassible. Il a toujours un visage impassible. Il a l'air... Il tient sa guitare très bas. Il bouge pas beaucoup, mais on dirait pas qu'il travaille fort.
On dirait pas qu'il travaille fort, mais moi, si j'avais à apprendre ce riff-là, faudrait que je claire ma soirée au complet. Là.
Mais peut-être que pour lui, c'est pas de travail.
Ben, c'est ça. Je pense que pour lui, c'est pas de travail. D'ailleurs, la chanson Cemetery Gate a failli ne pas faire l'album.
Quoi?
Parce qu'il trouvait que le riff de guitare, les suites d'accords, étaient pas assez bonnes pour lui. J'ai lu ça dans le NME. Il avait fait le NME en 2011 avait fait un sondage en ligne de ses lecteurs. C'était quoi les 20 meilleures chansons des Smiths? Et Cemetery Gate est arrivé en 15e position.
Juste 15e,
oui. Puis c'est là il donnait la petite explication en disant et dire que ça l'a failli ne pas faire l'album. Et si je me trompe, leur grand classique How Soon Is Now était un B-side.
Ouais. Ouais.
Ça m'a jeté à terre. Parce que quand j'ai découvert The Smiths, comme tout le monde, un peu sur le tard, c'est en reconnaissant l'intro avec le trémolo.
Ouais.
Et bien sûr, l'entrée grandiloquente de Morrissey. on aime ou on n'aime pas, hein? Mais si je m'en allais avec ça, je m'en rappelle plus où je m'en allais avec ça.
On t'est rendu à te parler des Killers, peut-être. Je sais pas si c'est là que tu allais. Meilleur Morrissey, Johnny Marr, qui est excellent. Ouais. Brandon Flowers, qui d'ailleurs est aussi un excellent Roy Orbison, qui a chanté à un moment donné au Concert for George Harrison, une chanson des Traveling Wilburys avec, je te dis, les poils lèvent sur mes bras. Là.
C'est tout un frontman, pareil.
Tout un frontman.
Ouais, bon, on s'éloigne un peu de...
On s'éloigne
un petit peu. Mais ce soir, quand même, je pense que avec leurs défauts, qui sont nombreux, les deux artistes ce soir ont quand même été frontés par des chanteurs assez charismatiques puis assez importants dans leur style.
Absolument. Parmi les plus grands frontmen contemporain. C'est sûr que, mettons, on enlève Mick Jagger, on enlève Jim Morrison. Là. Contemporain, c'est ben, contemporain. Est-ce que The Smiths, c'est contemporain? De qui, toujours?
Oui, c'est ça, de qui? C'est mais dans leur style respectif, c'est dans les plus grands frontmen. Et je pense avoir compris que Phil Anselmo était aussi un fan de Morrissey.
Ah oui?
Oui. C'est un gars qui est quand même, malgré quelques commentaires racistes, est quand même assez ouvert d'esprit musicalement. j'ai cru comprendre qu'il était aussi un fan des Smiths.
Ben écoute, on le comprend.
Parce que nous aussi, on est des fans.
Tout.
Ça a été long pour moi. Parce que moi, j'ai commencé par être un fan des Cure.
Oui.
Puis c'est comme Canadien Nordique. Hein.
Ah ouais?
À l'époque, tu ne pouvais pas aimer les deux. Là. Tu ne pouvais pas aimer les deux. Puis à un moment donné, j'ai fait mon cheminement. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi bouder mon plaisir?
Dans le fond.
Pourquoi?
Deux fois plus d'albums.
Deux fois plus d'albums, deux fois plus de musique, deux fois plus d'influence.
Oui.
Des sons différents, d'ailleurs. C'est vraiment... Il y a eu une... Encore une fois, la presse britannique a décidé de monter une rivalité de toutes pièces entre Robert Smith et Morrissey.
Ce qui n'est pas nécessairement... En fait, ce qui n'est pas nécessaire.
Qui est absolument pas nécessaire, en fait, mais bon, ça l'a fait vendre la copie. Ouais. On l'a vu dans les années 90 avec Blur et Oasis.
Y en a-t-il encore ce genre de rivalité-là dans la presse britannique?
Hey, ça, c'est une très bonne question. Il m'en vient pas à l'esprit en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas assez de grandes vedettes qui vendent la copie puis qui ont des streams. Je pense qu'il n'a pas...
Je sais pas, mettons, Adele n'a pas une grande ennemie.
Non, Adele n'a pas une grande ennemie. Ou si on prend dans le indie, mettons, Bibadoubi, elle n'a pas vraiment d'ennemis non plus qui lui ont été imposés par la presse. Non, il n'y a rien qui me vient. Écrivez-nous si vous avez une idée d'une toute nouvelle rivalité.
Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de notre comparaison, de la comparaison qu'on voulait faire.
Ouais,
encore une fois, je suis un peu content qu'on n'ait pas gardé le concept de la confrontation et des points. Ça aurait pas été facile. Je pense que The Smiths aurait gagné, mais...
Oh oui, moi aussi!
Mais ça aurait fait quelque chose de moins intéressant. Comme on disait au début de l'épisode, on est de retour. Là, on veut le faire plus souvent. On veut faire plus d'épisodes au courant des prochaines... des prochaines semaines, des prochains mois. Moi, je suis tombé l'autre fois sur un album du groupe The Tragically Hip qui s'appelle Road Apples. Ça serait une bonne comparaison avec l'album Pomme de route de Plume et Cassonade.
Mais
on a déjà parlé de Plume et Cassonade, donc ben, ça se fera pas. Mais pensez-y. Faites-vous un épisode de One Count One dans votre tête entre ces deux albums-là, français-anglais.
Puis du
c'est un épisode hors série.
C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez.
Dites-nous si on est bon dans votre tête.
Écoute,
si on résume,
les trucs en commun qu'on a trouvés, des chanteurs controversés, des guitaristes influents.
C'est vrai, tout le monde cite Dimebag Darrell depuis 30 ans.
Depuis les années 90, oui. Ouais. Des conflits légendaires entre les frontmen et leurs guitaristes, parce que The Smiths ne reviendra jamais.
Non.
Pantera n'eût été de la tragédie que j'ai racontée.
Serait
peut-être revenu, par contre, pour des questions d'argent. Mais à l'époque, avant la tragédie...
Ça avait été acrimonieux.
Ça avait été très acrimonieux. Les deux chansons parlent réellement de mort, d'une certaine manière.
Oui, mais...
Mais pas de la même façon.
Absolument pas de la même façon.
Dans les deux cas, il faut parfois justifier d'être un fan du band.
un T-shirt de Pantera... Et un T-shirt de The Smiths, ça se porte pas partout.
Non, puis des fois, c'est ça. Faut justifier le pourquoi du comment.
Mais c'est des réputations sulfureuses qui, selon moi, sont surfaites.
Oui, en effet. Bon, je pense que oui. Donc, voilà. T'as-tu d'autres choses à rajouter, François?
Pour m'être soumis à l'écoute de plusieurs reprise de Cemetery Gates par la chanson de Pantera, faites pas ça. Tout le monde qui fait un démo de musique un peu méchante essaie de la reprendre, puis c'est pas nécessaire. Je pense qu'on a fait le tour là, des reprises de Cemetery Gates, donc c'est mon opinion à l'emporte-pièce pour ce soir.
Vous voulez informer.
Toi, Mathieu, ça fait le tour?
Moi, ça fait le tour. Je voulais juste rapper avec les trucs en commun que j'avais trouvé. Je trouve que pour cet épisode-là, il y en avait quand même beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Ça m'a surpris. Donc voilà. Écoutez, écrivez-nous. À quelle adresse déjà? Ça fait tellement longtemps.
C'est oneacommercialcontre.one.
Nous sommes sur Facebook et Twitter. On a un semblant d'Instagram. Abonnez-vous parce que c'est très drôle. On n'est pas sur TikTok. Je vais ouvrir une page MySpace bientôt pour le LOL.
Ça existe ça encore?
J'en ai aucune idée.
OK. Sinon, c'est ça. Parlez-en à vos amis. Puis si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt.
Merci, François.
Merci, Mathieu.